Vous êtes sur France Culture, je vous laisse en compagnie d'Isabelle Lasserre pour le magazine du week-end.
Merci Clarence, on vous retrouve pour le prochain journal à 18h. Bonjour et bienvenue sur France Culture. Nous sommes en direct tous les samedis et tous les dimanches du mois de juillet de 12h40 à 13h50 pour décrypter les grands thèmes de l'actualité internationale et nationale. Aujourd'hui, nous tenterons de faire le bilan du sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Bruxelles cette semaine. Puis nous nous intéresserons aux enjeux du sommet Trump-Poutine à Helsinki lundi prochain. Plus de peur que de mal. On redoutait que le sommet de l'OTAN ne soit gâché par un tweet vengeur de Donald Trump, comme ce fut le cas le mois dernier au Canada pendant le G7. Certains craignaient qu'après avoir quitté l'accord sur le climat, déchiré le compromis sur le nucléaire iranien et déserté l'UNESCO, le président américain claque la porte d'une alliance qu'il trouve obsolète et vieille, aussi vieille que la guerre froide, elle aura bientôt 70 ans, et qui se repose trop sur les Américains. Pour Donald Trump, les États-Unis sont les couillons qui payent tout. C'est ce qu'il a dit dans le Montana, quelques jours avant le sommet. C'est la méthode Trump, déstabiliser, menacer, renverser la table sur la tête de ses alliés. Mais après un début très mouvementé, marqué par des attaques contre l'Allemagne d'Angela Merkel et des pics enfoncés dans le dos de ses alliés européens, à qui Trump demande de dépenser tout de suite 2% de leur budget de la défense, si ce n'est pas 3 ou 4%, la tempête s'est calmée, l'unité s'est refaite et tout est rentré dans l'ordre, ou en partie seulement. Si Donald Trump a confirmé l'engagement des États-Unis au sein de l'OTAN, il a suffisamment secoué la machine pour que des questions nouvelles et graves se posent, et notamment du côté européen. Les méthodes disruptives de Donald Trump, qui brisent les équilibres internationaux et écrasent les règles multilatérales, menacent-elles l'OTAN dans son essence ? L'Alliance Atlantique est-elle adaptée au XXIe siècle et aux nouvelles menaces qui guettent le continent ? Les attaques de Trump sont-elles une chance à saisir pour les pays européens qui, après avoir vécu depuis la chute du mur de Berlin dans l'illusion qu'était venue la fin de l'histoire et que toujours régnerait la paix, se reposaient sous le parapluie militaire américain ? Avec nous, pour en débattre, Camille Grand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général adjoint de l'OTAN depuis 2016. Vous avez auparavant dirigé la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et vous nous arrivez tout frais de Bruxelles, où vous avez participé au sommet de l'Alliance. Martin Quences, bonjour.
Bonjour.
Vous nous arrivez, vous aussi, tout frais du métro, où vous êtes resté, vous avez failli rester bloqué à cause de la parade des Champs-Élysées. Vous êtes chercheur au bureau parisien du think tank German Marshall Fund à Paris, spécialiste des questions de défense transatlantique et de politique étrangère américaine. En deux mots, Camille Grand, quel est le bilan du sommet de l'OTAN ?
Alors c'est un bilan un peu en demi-teinte, dans la mesure où on a eu un bon résultat, in fine, avec des documents qui ont été adoptés par les chefs d'État et de gouvernement et qui permettent à l'Alliance de travailler et de se lancer, de se préparer pour l'avenir avec toute une série de décisions sur lesquelles je reviendrai peut-être. Mais c'est aussi, et ça a aussi été, ce qui est assez inhabituel, un sommet où il y a eu des débats franc entre le chef d'État et le gouvernement, avec une session consacrée à cette question du partage du fardeau, qui a mis sur la table de manière très claire tout ce qui s'était exprimé auparavant sous la forme de remarques publiques ou de tweets du président des États-Unis entre chefs d'État et de gouvernement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de cette session extraordinaire du Conseil de l'Atlantique Nord, les chefs d'État et de gouvernement ont tous réaffirmé l'unité de l'Alliance et ont en quelque sorte trouvé un terrain d'entente, ce qui fait que, de mon point de vue, on sort finalement plutôt consolidé grâce à un débat qui a été, où on est allé un peu au fond des choses, et de manière non scriptée, on va dire, à la différence de ces sommets internationaux où on pense toujours que tout est joué d'avance, dit d'avance, etc. Et là, il y a eu cette discussion, très franche, très directe, et avec une sortie finalement consensuelle, ce qui était la chose la plus importante pour préserver, on va dire, la solidité de l'alliance, et pour aussi sortir de ce qui apparaissait en tout cas aux yeux à l'extérieur comme une sorte de crise du fait des remarques qui ont pu être faites, notamment par le président des États-Unis, et qui avait provoqué une forme de tension avec ses homologues européens. Et donc ça, je crois que c'est vraiment le constat qu'on peut tirer, avec d'un côté cette sortie finalement plutôt bonne, surtout si on compare, comme vous l'avez fait à l'instant, avec d'autres sommets internationaux qui se sont terminés sur un éclat. Là, il y a eu un débat très direct et une sortie plutôt apaisée avec, disons, les bonnes paroles prononcées par tous les chefs d'État.
Parce que c'était quoi les risques ? Une annulation de la participation des États-Unis aux exercices militaires de l'OTAN, voire une sortie de l'OTAN ? Est-ce que Trump a vraiment eu l'intention de quitter l'Alliance Atlantique ? Tout ça, c'est un petit peu de la poudre aux yeux, non ?
Je ne crois pas qu'il ait eu l'intention de quitter l'Alliance Atlantique. Il n'a pas dit de choses de ce type. Il a exprimé de manière très forte l'insatisfaction des États-Unis sur cette question du partage du fardeau financier de l'Alliance. Ce qui a, et il l'a dit, et publiquement, et dans les réunions, il n'a pas, en revanche, pas menacé de quitter l'Alliance. Donc le sujet, au fond, était plutôt celui du message de ce sommet, c'est-à-dire est-ce que l'OTAN sortait de ce sommet affaibli parce que nous ne parvenions pas à un accord sur des documents on se séparait fâché. Ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est la chose qui est importante immédiatement. Après, il y a toute une question qui maintenant est clairement sur la table, sur comment est-ce que la relation transatlantique, avec cette question du poids financier de l'Alliance et des dépenses militaires, va évoluer dans les mois et les années qui viennent.
Martin Quences, est-ce que finalement Donald Trump n'a pas un peu raison quand il dit que l'OTAN est obsolète, que c'est un outil géopolitique ancien ? Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie, est-ce qu'il n'a pas raison non plus quand il demande aux Européens de participer davantage au partage du fardeau ?
Alors, je pense que Donald Trump avait une vision assez simpliste de l'OTAN quand il est arrivé à la Maison-Blanche. Je pense que c'est toujours le cas. Il a dit pendant la campagne que l'OTAN était obsolète, principalement parce qu'il considérait que la principale menace pour les États-Unis était une menace terroriste. Et qu'il considérait que l'OTAN ne répondait pas correctement à cette menace-là. Il avait, durant toute la campagne présidentielle, mis de côté finalement la menace, disons, d'un conflit conventionnel avec une grande puissance type Russie, en disant notre vrai problème, c'est le terrorisme, l'OTAN est obsolète puisqu'il ne répond pas à ça. Depuis, il considère que l'OTAN n'est plus obsolète. Il a pu répéter depuis maintenant, je crois que c'était le mini-sommet de Bruxelles l'année dernière, il considère que tout a été résolu de ce côté-là, c'est plus une terminologie qu'il utilise. Je pense qu'il il utilise l'OTAN d'une certaine manière, il est constamment en campagne. On l'a vu quand il était dans le Montana avant de venir à Bruxelles cette année. L'OTAN est une des organisations. Il a également nommé l'Organisation mondiale du commerce ou les traités avec l'Union européenne comme étant les pires deals de l'histoire des États-Unis. Donc c'est une des organisations multilatérales qu'il va détruire sciemment durant ses meetings politiques. Mais je ne pense pas qu'il ait raison puisqu'il n'a pas du tout une argumentation claire du pourquoi de cette obsolescence. Quant à la question du partage du fardeau et des budgets...
Parce que la décision de porter les budgets des pays membres à 2%, elle a déjà été prise après l'annexion, en 2014, après l'annexion de la Crimée. C'est un engagement qui portait sur 10 ans et on sent quand même un mouvement.
Ce qui est difficile, c'est qu'il faut, il faut prendre d'un côté le débat de manière un peu rationnelle et puis de l'autre côté le discours de Donald Trump. Donald Trump utilise des chiffres qui sont faux. Il utilise une manière de présenter les choses qui est erronée de manière factuelle. Quand il a fait sa conférence de presse cette semaine en disant que l'OTAN, selon les calculs, était financé à 90% par les États-Unis. Non, mais il n'y a pas de c'est pas comme ça qu'on peut voir les choses de manière factuelle. D'un autre côté, en effet, le partage du fardeau est injuste. Ça, il l'a répété. Les États-Unis continuent de porter la majorité du poids et d'être la principale garantie de sécurité pour ce qu'il appelle des alliés riches. Finalement, ils se demandent pourquoi. Il a la même rhétorique, d'ailleurs, en ce qui concerne la Corée du Sud et le Japon. Pourquoi ces pays qui sont si riches ne peuvent pas prendre en charge leur propre sécurité? Un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la politique américaine est totalement divisée. Il y a très, très peu de points d'accord bipartisans entre le Parti démocrate et le Parti républicain. Mais cette question-là est un consensus absolu. Vous allez dans un meeting démocrate ou républicain aujourd'hui, l'idée que les États-Unis se font avoir par les alliés européens est vraiment un accord bipartisan aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que Donald Trump. C'est quelque chose que cette frustration-là, elle existait sous Barack Obama, sous George Bush, déjà sous Clinton, et même on peut revenir avant même la fin de la guerre froide. Et je pense que les Européens auraient tort de cibler ça comme étant un problème Trump. C'est quelque chose de beaucoup plus profond aux États-Unis. Ensuite, il y a une amélioration, en effet, il y a une augmentation des dépenses. Pour Donald Trump, ça ne va pas assez vite. On peut également noter que les Allemands ont proposé un budget qui n'irait qu'à 1,5% du PIB à 2024, au lieu des 2% qui avaient été... c'est pas un engagement pour atteindre 2%, mais pour en tout cas se rapprocher.
Ils ont un double inconvénient, là, pour Trump, les Allemands. D'abord, c'est un pays riche qui ne dépense pas beaucoup, et en plus, c'est un pays qui est ambigu vis-à-vis de la Russie et davantage mu par des intérêts économiques et financiers, alors même... selon Trump, que l'OTAN est censé le protéger contre la Russie. Donc c'est un peu...
Oui, ça c'est d'une certaine manière la schizophrénie américaine par rapport à la Russie aujourd'hui. On a d'un côté en effet un congrès et une partie de l'administration qui est très très dure sur ces questions, qui sur la question de Nord Stream, donc de cet accord énergétique avec la Russie, considère que l'Allemagne véritablement affaiblit l'alliance et affaiblit la sécurité européenne. Donald Trump a repris ce message-là lorsqu'il arrive à Bruxelles et qui parle donc d'une Allemagne qui est totalement sous le joug de la Russie. D'un autre côté, ça fait un an et demi, même plus si on considère la campagne, que Donald Trump n'envoie que des signaux extrêmement positifs quant à Vladimir Poutine, au fait qu'il pourrait être finalement un partenaire ou quelqu'un avec qui il s'entend très bien. Donc il y a une schizophrénie à Washington.
On en parlera dans la deuxième partie de cette émission.
Oui, et c'est là, je pense, où l'Allemagne a aussi une difficulté à se placer, puisqu'on est face à différents messages, on est face à quelque chose qui n'est pas du tout clair venant de Washington. D'un côté un congrès, de l'autre côté la Maison-Blanche. Je pense que autant, encore une fois, il y a des critiques qui sont justes sur le fait que le partage du fardeau n'est pas équilibré, le fait que l'Allemagne, en effet, ne respecte pas son engagement de 2014, mais la manière dont ces critiques sont faites, et puis les faits qui sont utilisés, sont souvent erronés.
Camille Grand, vous êtes partagé cette analyse, vous qui vivez le sujet de l'intérieur de l'Alliance Atlantique.
Alors, les choses sur ce débat sur le partage du fardeau sont effectivement, comme le disait Martin, anciennes. Hein. Les premières critiques sur le partage de fardeau, c'est Foster Dulles dans les années 50. Donc, les Américains se plaignent de ce déséquilibre. Et dans la période récente, il y a un fameux discours de Robert Gates, qui a été le secrétaire à la Défense, à la fois de Bush puis d'Obama, qui avait très vertement critiqué les Européens. Dès 2011. Donc on est vraiment dans un cycle fort, et là je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est pas Trump, c'est effectivement quelque chose qui vient de l'ensemble des États-Unis et qui est partagé à la fois par les démocrates, les républicains, les gens raisonnables et ceux qui le sont moins. Ensuite, ce qui est vrai aussi, et c'est ce qui on a pu faire valoir pendant ce sommet, c'est que les choses ont changé. Jusqu'en 2014, les dépenses de défense en Europe baissaient. Depuis 2014, elles augmentent. C'est la quatrième année consécutive. L'an dernier, l'Europe est la région du monde où les dépenses militaires ont le plus augmenté en volume. C'est pratiquement 87 milliards de dollars qui ont été dépensés en plus en Europe depuis 2014. Donc on est sur ce qui est un montant qui veut dire qu'on a ajouté en 4 ans l'équivalent du budget de la France, de Royaume-Uni et de l'Allemagne pour une année donnée. Donc c'est vraiment des changements très très significatifs, et dans les deux dernières années, c'est 41 milliards de plus qui ont été dépensés en Europe. Donc en Europe et au Canada, puisque la critique s'adresse aussi aux Canadiens. Donc on est vraiment dans quelque chose où l'ambiance a radicalement changé sur ce thème du partage du fardeau. Avec maintenant, à la fin de l'année, on aura 8 États sur 29 qui seront à 2%. On en a 18 qui se sont engagés à y être en 2024. Donc on a vraiment une transformation de la situation qui s'est faite dans les toutes dernières années. À côté de ça, c'est vrai qu'un certain nombre de pays n'y sont pas encore. C'est vrai qu'un certain nombre de pays n'ont pas pris d'engagement ferme d'y être à cet horizon de 2024 qui avait été agréé en 2014. Et donc là, il y a, un débat légitime entre les États-Unis d'un côté qui disent « je ne veux plus payer 70% des dépenses de défense de l'Alliance » et des Européens qui, pour certains, traînaient un peu des pieds. Et de ce point de vue-là, le sommet de Bruxelles de cette semaine a eu le mérite de mettre ce débat clairement sur la table et, d'inciter les Européens à prendre conscience au plus haut niveau politique que ce n'était pas quelque chose avec lequel on pouvait financer, entre guillemets, que cet engagement des 2%, d'autant plus qu'il correspond pas principalement à une demande des États-Unis, mais à une évaluation d'un environnement stratégique dégradé depuis l'annexion illégale de la Crimée. 2014, c'est quand même l'année de la chute de Mossoul, de l'annexion de la Crimée et d'une série d'attentats majeurs. Donc on est dans quelque chose où on a pris conscience, peut-être un peu tardivement, que le monde n'était pas celui de l'après-guerre froide et des dividendes de la paix. Donc ce changement-là, il est en cours. Il ne va pas assez vite pour Donald Trump, il l'a dit avec clarté et une certaine franchise à ses homologues. Je pense qu'ils l'ont entendu, c'était difficile de faire autrement. On va voir dans les années qui viennent comment est-ce qu'ils vont accélérer, accentuer leur effort pour parvenir à ces fameux 2%, qui ne sont pas un chiffre arbitraire, c'est un chiffre qui est très en deçà de ce qu'on faisait pendant la guerre froide, où la moyenne était plutôt vers 3,5%.
Mais Martin Coenzès, est-ce que Trump reproche, à part cette question d'argent, est-ce qu'il reproche d'autres choses à l'OTAN ?
C'était un point d'ailleurs qui était intéressant dans les mois qui ont précédé le sommet. C'était souvent de demander à l'administration américaine, mais ok, au-delà de cette question de budget, avez-vous d'autres attentes ? Et très souvent, il n'y avait pas véritablement de réponse. L'idée, il y avait évidemment un certain nombre de questions plus ou moins technique, la question de la mobilité qui a été en partie résolue, ou en tout cas des solutions ont été proposées durant le sommet. La question, en effet, toujours de l'alliance et de la menace terroriste. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose de plus pertinent ? Mais il y avait cette incapacité, souvent, notamment au niveau de la Maison-Blanche, à dépasser la question du budget. Et ça, on le note également lorsque les dirigeants américains parle de l'OTAN sur la scène intérieure. Aujourd'hui, véritablement, l'OTAN, tel qu'il est présenté aux États-Unis, c'est une organisation qui ponctionne de l'argent américain et qui profite aux alliés qui ne font pas assez d'efforts. C'est véritablement comme ça que l'Alliance est présentée dans les principaux médias pro-Trump aux États-Unis. Comme le disait Camille, c'est un débat qui est ancien, mais c'est un débat qui, je pense, a pris encore plus de violence aujourd'hui. Vous savez, il y a quelques temps, lors d'un rallye de Donald Trump, le public pouvait huer le nom d'Angela Merkel. On peut imaginer que si cette sorte de rhétorique sur l'OTAN continue, la prochaine fois qu'on entendra le mot OTAN lors d'un rallye de Donald Trump, on aura également des sifflets et du brouhaha. Et ça, encore une fois, ça n'a pas d'impact direct sur la capacité de l'Alliance à proposer des solutions militaires aux problèmes de sécurité. Mais ça a un impact évident sur la manière dont on veut se présenter comme une alliance unie, comme un front politique uni face notamment à la Russie. Le but d'un sommet n'est pas simplement d'avoir une déclaration avec un certain nombre d'initiatives qui répondent aux problèmes. Le but d'un sommet, c'est d'abord de présenter un front uni politique. Le travail de fond, il est fait lors des réunions ministérielles, c'est pas lors du sommet. On peut se demander finalement l'intérêt d'avoir ce genre de sommet si l'objectif principal n'est pas rempli, qui est encore une fois d'avoir une impression d'unité au sein de l'Alliance.
Camille Grand, l'OTAN, c'est un outil du passé ou de l'avenir ? L'Alliance a-t-elle réussi à s'adapter aux nouvelles menaces ?
Je vous surprendrais si je vous disais que c'était un outil du passé. C'est évidemment une organisation qui a très profondément évolué dans les dernières années, qui s'est reconfigurée après la guerre froide, après le 11 septembre et après les événements d'Ukraine, pour s'adapter à un environnement. Et de ce point de vue-là, le sommet de Bruxelles, et c'est presque un peu dommage, a validé toute une série de... qu'on n'en les voit pas tant que ça, du fait de cette attention sur l'attitude du président américain. a validé toute une série de décisions qui contribuent à projeter l'Alliance dans le 21e siècle. Un travail sur ce qu'on appelle la réactivité, c'est-à-dire la capacité à agir vite face aux crises, avec une volonté d'être capable de mobiliser 30 bataillons, 30 escadrilles d'avions de combat, 30 bateaux de combat en 30 jours, ce qui était un vrai problème, une vraie plainte américaine aussi. Cette question de la mobilité militaire, comment se déplacer dans l'espace européen, avec un gros travail qui a été fait avec l'Union européenne pour faciliter tout ça et donc faciliter les renforts, une réforme de la structure de commandement. Et sur des dossiers beaucoup plus politiques, un engagement en Irak pour faire de la formation des forces irakiennes pour permettre que Daesh ne réapparaisse pas en Irak et contribuer ainsi au travail de la coalition. En Afghanistan, une augmentation de la présence pour soutenir les forces afghanes et même la porte ouverte à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, donc une OTAN qui continue à s'élargir dans les Balkans occidentaux. Donc, il y a tout ce paquet-là qui reste et qui est là, qui va nous permettre de travailler et d'avancer, qui marque finalement une OTAN qui se transforme, qui avance, qui répond aux défis de sécurité. Et à côté, effectivement, ce débat sur le partage du fardeau, qui est un débat parfaitement légitime, mais qui est un débat qui a tendance à en quelque sorte un peu obscurcir le tableau de ce travail qui a été fait dans les mois qui ont précédé le sommet et même pendant le sommet, puisque tous ces sujets-là ont évidemment été aussi débattus entre chefs d'État et de gouvernement.
Martin Coenzès, vous trouvez vous aussi que l'OTAN a réussi à s'adapter à la nouvelle donne ou que il y a certaines menaces, notamment je pense à tout ce qui est cyber, contre lesquelles elle peine encore à...
Alors, je pense qu'il y avait une très bonne capacité à identifier les problèmes avant le sommet. Et en effet, comme le disait Camille, une liste d'initiatives qui ont été prises. La question de la disponibilité ou la réactivité étant assez symbolique de ce qu'il fallait résoudre dès à présent. Mais finalement, aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où l'Alliance est faible parce qu'elle ne répond pas aux défis militaires. On est dans une situation où l'Alliance est remise en question, en tout cas sa crédibilité peut être remise en question, parce que l'union politique et la volonté politique apparaît affaiblie. Je pense que ce débat-là, il faut pas le surjouer sur Donald Trump. En effet, ça couvre un peu tout le reste. Mais on peut pas faire comme si le président de la première puissance au monde et la première puissance de l'Alliance ne compte pas. Donc oui, les tweets comptent, oui, les messages et la conférence de presse qui était assez ubuesque où il parlait un peu de tout et n'importe quoi. Il a parlé du commerce, après il a parlé du fait que les équipements militaires américains étaient ceux que tous les Européens voulaient acheter. Donc il a mélangé tous les sujets, comme d'habitude. Ça ne peut pas être considéré comme un signe de renforcement de l'Alliance. Donc voilà, il faut vraiment distinguer les deux aspects. D'un côté, des initiatives que Camille a pu lister, qui sont très positives pour faire rentrer l'Alliance dans cet environnement stratégique. De l'autre côté, une Alliance qui est plus affaiblie aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Et on va, d'une certaine manière, clore cette séquence avec le rendez-vous Trump-Poutine, oui, qui va aussi donner un certain
absolument
ton.
Mais alors, du coup, à qui profite le crime avoir ainsi s'afficher les dissensions entre alliés. Vladimir Poutine, lui qui aimerait quand même la disparition de l'OTAN, doit se frotter les mains, non?
Oui, à très court terme, Donald Trump pense que ça lui profite. Ça lui profite parce que c'est d'abord une question de politique intérieure, encore une fois. Hein. Il a les midterms, les élections de mi-mandat en tête. Il a cette idée qu'il peut créer une crise, la résoudre en 24 heures. Ça fait un nouvel épisode de cette espèce d'émission de télé réalité Donald Trump à la Maison Blanche. C'est excellent pour l'audience qu'il souhaite. Et on l'a vraiment vu avec cette conférence de presse à Bruxelles, il parle à sa base électorale. Il ne parle pas des grands enjeux du monde. Il parle à sa base, il dit « j'ai réussi à forcer les alliés à répondre à nos demandes ».
Camille Grand, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet ?
Sur ce sujet, moi je suis un tout petit peu plus nuancé sur le résultat, parce que là je pense qu'il y a eu, et en le regardant ça un peu de l'intérieur, il y avait un petit décalage entre ce qui se passait dans la salle et le bruit de fond à l'extérieur, ce qui est normal comme dans tous les sommets internationaux. Oui, il y a eu des paroles publiques et privées fortes de Donald Trump. En même temps, on termine ce sommet sur un discours d'unité, sur un Donald Trump qui dit « je crois en l'OTAN ». Et non seulement Trump, mais aussi la chancelière Merkel, le président Macron, Theresa May, l'ensemble des leaders qui ont réaffirmé de manière très ferme cette croyance. Donc d'une certaine manière, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu une tension sur ce sujet du partage du fardeau, mais on sort de ce sommet avec, par rapport à un certain nombre de prédictions qu'on avait pu annoncer d'un Trump qui ne resterait pas, qui partirait au milieu, qui claquerait la porte, qui ferait des annonces défavorables à la sécurité européenne, etc., avec une question sur comment est-ce que cette question du partage du fardeau va être gérée à court et moyen terme, et est-ce que le réengagement des Européens dans ce domaine va être suffisant vu de Washington, certes, mais pour le reste, on sort plutôt avec une alliance qui a su mettre les problèmes sur la table, les gérer un peu en temps réel pour que finalement les choses se terminent bien, et que ça n'a pas empêché d'aller de l'avant. Et ça, je pense que c'était quand même un point important dans un contexte où on sait aussi que beaucoup de ces rencontres internationales en ce moment ne se terminent pas sur ce type de note positive. Donc ça, je crois que c'est quelque chose que on doit prendre en compte, ce qui n'interdit évidemment pas d'avoir une réflexion sur comment est-ce que cette relation transatlantique dans le domaine de la sécurité est en train d'évoluer, qu'est-ce que ça veut dire pour la relation entre l'OTAN et l'Union européenne, toute une série de sujets vraiment importants qui doivent faire partie de notre réflexion collective.
Vous vouliez ajouter un mot, Martin?
Un point, et je suis d'accord, en fait, finalement, il faut comparer avec ce qu'on attendait avant le sommet, finalement, les craintes qu'on a pu voir dans les médias. Un point néanmoins, Donald Trump, en tant que président, n'a pas le pouvoir de sortir de l'OTAN. On lui a posé d'ailleurs la question pendant la conférence de presse, il a dit « je pense avoir le pouvoir ». Non, il faut passer par le Congrès, une immense majorité pro-otanienne. Il n'y a aucun risque de ce côté-là pour une sortie des États-Unis. Néanmoins, si on prend par exemple la question assez centrale du budget allemand de la défense, je pense que ce qui s'est passé à Bruxelles peut rendre plus difficile encore politiquement pour Angela Merkel de pousser les Allemands à faire un effort. On a eu un sondage la semaine dernière dans un magazine allemand qui montrait que seulement 15% des Allemands soutenaient Angela Merkel lorsqu'elle disait qu'il fallait atteindre 2%. C'est très bas. Je pense qu'après ce qu'on a entendu de la part de Donald Trump, ça devient peut-être encore plus difficile politiquement. Donc c'est un enjeu qui me semblait assez central et qui, à mon avis, n'a pas été, disons, résolu, voire pire, a été aggravé avec les dissensions qu'on a vues.
Ça, c'est très intéressant. Vous allez ajouter quelque chose, Camille, mais je vais en profiter pour vous poser une autre question. C'est finalement le show de Trump a éclipsé quand même le problème turc de l'OTAN. Deuxième armée de l'Alliance en termes d'effectifs, seul pays musulman qui achète des systèmes de défense, des missiles S-400 à un ennemi de l'OTAN, la Russie. Enfin, en tout cas, la Russie considère l'OTAN comme son ennemi, c'est plutôt dans l'inverse. Ce problème a été complètement éclipsé.
Alors,
néanmoins, il demeure.
Alors la question, la Turquie est un allié qui est absolument central dans l'OTAN, ne serait-ce que par sa position géographique. C'est le pays qui touche la Syrie, l'Irak, l'Iran, qui est absolument le pays de l'OTAN qui est au Moyen-Orient et qui a en plus une des plus grosses armées de l'OTAN et une diplomatie et une posture politique qui n'est pas celle manifestement de la plupart des autres Européens sur un certain nombre de dossiers importants qui ne sont pas des dossiers intérieurs à l'OTAN mais qui sont d'autres. Moi, mon impression là-dessus, c'était que le président Erdogan, après sa réélection, était beaucoup plus serein. On l'a vu, il a levé l'état d'urgence cette semaine et donc du coup, dans le contexte de l'OTAN, par rapport à des tensions qu'il pouvait y avoir il y a quelques mois autour de l'action turque en Syrie contre les Kurdes, ou des débats qu'il pouvait y avoir sur le jeu joué par la Turquie dans telle ou telle crise moyen-orientale, c'était pas effectivement pas à l'ordre du jour, pas parce que c'était éclipsé, mais simplement parce que je pense que les choses se sont très largement apaisées par rapport à la situation qui pouvait être celle d'il y a quelques mois. Ayant dit ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques sujets qui demeurent, notamment entre Américains et Turcs sur cette question des achats de S-400. La Turquie n'est pas le seul pays de l'Alliance à opérer des systèmes d'armes d'origine russe. Mais c'est vrai que ce système
est
particulièrement sensible et donc pose un certain nombre de questions à la fois politiques et techniques là-dessus. Mais les pays de l'Alliance sont souverains dans leurs décisions d'acquisition. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut rebondir demain. Ce qui me semble intéressant par rapport à ce que disait Martin tout à l'heure sur comment est-ce que les pays vont réagir à cette dynamique. Je crois qu'il y a en réalité toute une gamme de réactions. Et il y a parmi les pays européens, tous sont engagés, mais c'est vrai que les opinions publiques varient beaucoup. Il y a des pays pour lesquels aller à 2% c'est une évidence, ils doivent y être, ils y vont, ils y sont déjà, les Baltes, les Polonais, les Roumains, etc. Et il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile à vendre à leurs opinions, à leur parlement. Et donc ça, c'est une tension qu'on va voir. Et le facteur Trump peut jouer dans les deux sens de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont vouloir être bon élève et d'autres chez qui ça va rendre le débat politique peut-être plus compliqué. On va voir comment ça évolue. Moi, ce qui me frappe là-dessus, c'est que l'Allemagne, qui était la cible principale du président, avant même le sommet, a envoyé des signaux sans précédent, d'une certaine manière. Et on voit que la chancelière, que la ministre de la Défense font évoluer les choses. Et encore une fois, je crois que la clé des choses, si on prend ce débat des 2% en disant « c'est pour faire plaisir à Trump », ça ne va pas forcément convaincre toutes les opinions publiques en Europe. En revanche, si, comme l'a fait la chancelière, comme on l'a fait en France avec la loi de programmation militaire et les décisions qui ont été prises par le président de la République et Florence Parly là-dessus, et qu'on évalue l'environnement stratégique, à ce moment-là, on peut arriver à motiver ces 2% de manière tout à fait claire, sans avoir besoin d'attendre trop... Pour faire tourner le débat autour de...
Martin Quensez, en deux minutes, la France a réintégré le commandement militaire de l'OTAN, le commandement intégré de l'OTAN à l'époque en 2008 sous Nicolas Sarkozy, après s'en être retiré avec De Gaulle. Quel bilan vous faites, très rapidement, de ce retour dans le commandement intégré?
Alors le bilan, moi, de ce que je comprends d'un point de vue purement militaire est positif. Il y a une faculté à travailler qui est évidente et on a vu d'une certaine manière depuis, pas simplement parce qu'il y a eu une réintégration, mais depuis le second mandat de George W. Bush, vraiment une coopération approfondie entre les Français, les Alliés, notamment les Américains. Après, il y avait un certain nombre d'enjeux plus politiques pour la France de se faire davantage entendre au sein de l'Alliance, avec un certain nombre de postes qui étaient en jeu. Ça a été, disons, partiellement rempli. Est-ce que la France, aujourd'hui, a les bons dividendes de ce retour? Ça, c'est politiquement, on peut en débattre. Mais militairement, il n'y a en effet que des bénéfices pour la France.
Eh bien, c'est la fin de ce premier débat consacré au sommet de l'OTAN. On se retrouve tout de suite après une pause musicale. Anybody.
le magazine du week-end, Isabelle Lasserre.
Vous venez d'écouter Police State, une chanson du groupe de punk rock féministe Pussy Riot qui compare Donald Trump à Vladimir Poutine. Il est maintenant l'heure d'ouvrir notre second débat du magazine d'été. C'est leur premier sommet bilatéral et il aura lieu lundi en terrain neutre à Helsinki, la capitale de la Finlande, qui depuis la guerre froide s'est fait une spécialité des grands tête-à-tête Est-Ouest. En 1975, elle avait accueilli Gerald Ford et Léonid Brejnev. En 1990, George Bush père Mikhail Gorbatchev. En 1997, Bill Clinton et Boris Eltsin. Depuis l'euphorie diplomatique qui avait accompagné l'arrivée au pouvoir de Boris Eltsin, le président qui avait mis le cap à l'Ouest et engagé son pays sur le chemin de la démocratie, les relations entre le Kremlin et la Maison Blanche se sont dégradées. Les tentatives de rapprochement de Barack Obama ont été pulvérisées par l'annexion russe de la Crimée en 2014. L'attirance mutuelle entre Vladimir Poutine et Donald Trump, deux hommes forts, mettant en avant muscles et testostérone et qui chacun à leur manière déconstruisent l'ordre occidental, a été contrariée par les ingérences russes dans la campagne électorale américaine, par l'affaire Skripal et par les différends en Syrie. Le sommet d'Helsinki permettra-t-il de rapprocher les positions des deux grands, comme la rencontre de Reykjavik en Islande entre Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev avait annoncé en 1986 le début de la fin de la guerre froide. Sur la table, les attentes des dossiers sensibles. La Syrie d'abord. Donald Trump voudrait proposer un plan de règlement de la crise à Vladimir Poutine et lui demander de contenir l'avancée de l'Iran dans la région. La Crimée ensuite. Le maître du Kremlin, aimerait bien que le président américain reconnaisse l'annexion. Qui seront les gagnants? Qui seront les perdants de ce sommet? Vladimir Poutine, dont le but est de retrouver un rang d'égalité avec les États-Unis, a beaucoup à gagner. Après 18 ans au pouvoir, c'est déjà son quatrième président américain. Il le rencontrera avec d'autant plus d'assurance qu'il n'a pas perdu une miette des tensions interalliées du sommet de l'OTAN et qu'il arrivera à Helsinki au lendemain d'une finale de foot saluée comme un modèle d'organisation. Avec nous pour en débattre, Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez rejoint, vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste de la Russie et historien des relations internationales. Laure Mandeville, vous venez aussi de rejoindre ce plateau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Figaro, journal pour lequel vous avez été correspondante à Moscou puis à Washington. Vous avez publié « Qui est vraiment Donald Trump ?» aux éditions des Équateurs en 2016 et « La reconquête russe » chez Grasset en 2008. Martin Quences du German Marshall Fund, vous êtes resté avec nous. De même que vous aussi, Camille Grand, secrétaire général adjoint de l'OTAN, car vous serez l'homme du trait d'union entre le sommet de l'OTAN et le face-à-face d'Helsinki. Thomas Gomard, que peut-on attendre de ce sommet d'Helsinki entre Donald Trump et Vladimir Poutine?
Bon, la première chose que tout le monde veut observer, c'est, je dirais, le face-à-face de ces deux personnalités tout à fait, à certains égards, oui, exceptionnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas des personnalités classiques sur la scène internationale. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une situation où la relation russo-américaine n'a jamais été aussi, vous l'avez dit dans vos propos liminaires, n'a jamais été aussi dégradée depuis la fin de la guerre froide, avec des possibilités de confrontation réelles, et que donc la première chose que l'on peut attendre, ce serait une sorte de faire en sorte que les choses, non pas s'apaisent, mais disons qu'il y ait une prise de contact personnelle qui permettrait à cette relation de repartir sur d'autres bases. Je pense que c'est à peu près la seule chose que l'on peut attendre, parce que de manière structurelle, cette relation est à mon avis, reste très antagoniste entre les deux pays, pour des raisons sur lesquelles on va probablement revenir. Et je pense que ce sommet est important pour la prise de contact personnel et puis également en raison du contexte dans lequel elle a lieu. Effectivement, il y a l'après Coupe du Monde et donc Vladimir Poutine arrive en position de force parce que il a observé les divisions transatlantiques dans le cadre de l'OTAN. Il a aussi observé évidemment le G7 qui est un sujet pour la Russie en tant que telle puisqu'elle a été exclue du G7, enfin, du G8 après
l'annexion. Le G7 donc le mois dernier.
Voilà, qui a été une sorte de mise en scène aussi de toutes les difficultés que les États-Unis suscitent dans leurs relations avec leurs partenaires traditionnels. Donc il est en position de force, à l'évidence, et Donald Trump lui arrive et va essayer de faire, comme il l'a fait avec le sommet de Singapour, de la grande politique, sans forcément avoir bien préparé les choses.
Sommet de Singapour, donc avec la Corée du Nord, hein. Laure Mandeville, quels sont les enjeux de ce sommet que vous allez couvrir pour Le Figaro, et notamment sur les deux sujets que je mentionnais, le dossier syrien et le dossier ukrainien? Ou vous allez peut-être me parler d'autres enjeux d'ailleurs.
Oui, moi je voulais juste revenir sur le fait, sur ce que disait Thomas, c'est-à-dire qu'on a avant tout une rencontre de deux personnalités et de deux mondes qui finalement, comme cela a été dit, comme vous l'avez dit Isabelle, sont en réalité aujourd'hui en confrontation, presque en nouvelle guerre froide. Donc on a d'un côté un personnage qui arrive en passant par la Maison Blanche, mais qui arrive au fond du monde de New York et qui de ce point de vue-là a des similarités, je dirais, frappantes avec Vladimir Poutine. Ce sont deux hommes qui sortent du monde de Hobbes. Pas celui de Rousseau, c'est un monde de rapport de force, un monde de brutalité, un monde de je dirais presque de violence, qui peut s'exprimer dans le verbe, dans la manière d'être. Donc on va avoir un choc d'ego, un choc d'alpha mâle, comme on dit aux États-Unis. Et de l'autre côté, on a deux personnages qui, au fond, ne pourraient pas être plus différents dans le style, dans la personnalité même. C'est-à-dire que ce sont deux alpha mâles, mais d'un style totalement différent. On a de côté un homme qui sort du monde des services secrets russes, donc qui a eu l'habitude pendant des décennies de ne pas se montrer, d'être discret, d'être complètement maîtrisé. Et c'est un homme de maîtrise, Vladimir Poutine. Et l'expérience qu'il a acquise sur le plan politique, sur la scène publique, lui a permis en réalité d'affiner cette maîtrise, à la fois de devenir quelqu'un d'extrêmement assuré, ce qui n'était absolument pas quand il est arrivé aux affaires en 2000. Et de l'autre côté, on a un personnage qui est extravagant, qui est dans tout sauf dans la maîtrise rhétorique, par exemple, c'est-à-dire qui parle plus qu'il ne devrait, qui est explosif, mais qui en même temps a une maîtrise tout aussi extraordinaire dans un autre style que Poutine, par exemple, du média. Et tous les deux vont être finalement devant les projecteurs et vont essayer de profiter de cette lumière et de leur face-à-face pour en tirer quelques profits. Et aussi, je dirais, essentiellement, se mesurer l'un l'autre, essayer de comprendre ce qu'ils peuvent tirer de l'adversaire. Ce qui m'a frappé lors du sommet qu'on a juste eu à l'OTAN, c'est que Donald Trump a été interrogé sur sa relation avec Poutine. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit au fond, Vladimir Poutine n'est ni mon ami, ni mon ennemi, c'est mon rival, a competitor. Il a dit. Et donc, au fond, c'est un petit peu rassurant parce que d'un côté, on voit cette espèce de volonté presque, instinctive et irréaliste presque de Trump d'embrasser Poutine et de se retrouver avec lui dans une sorte d'amitié, d'un changement de pied dans la relation russo-américaine. Et de l'autre côté, il y a ce réalisme, je pense, Trump, qui équilibre, je dirais, contrebalance cet instinct fou, ce désir fou de l'amitié. C'est le réalisme du fait que, comme il l'a dit, moi je représente les États-Unis, lui représente la Russie, et donc il y a le réalisme d'une relation qui est évidemment contrainte par cette confrontation ouverte dont a parlé Thomas immédiatement.
Il reprend les États-Unis. Oui, Martin Quenset, c'est peut-être le moment de revenir sur notre annonce de schizophrénie tout à l'heure dans le premier débat, parce que le Congrès américain, lui, est traversé par un fort courant anti-Poutine, et il y a une espèce de schizophrénie de Washington par rapport à la Russie. Hein. D'un côté, l'administration se durcit les sanctions, et de l'autre côté, Poutine multiplie les tweets élogieux.
Donald Trump, oui, multiplie les tweets. Il y a cette schizophrénie qui, évidemment, va marquer cette rencontre parce que les Américains arrivent comme étant divisés. D'un côté, une administration, un congrès plus ou moins uni sur ce qu'il faut faire vis-à-vis de la Russie, et Donald Trump, qui est donc, d'une certaine manière, le facteur X de l'équation. Un autre élément à prendre en compte, peut-être plus personnel pour Donald Trump, c'est qu'il est absolument obsédé par l'enquête de Robert Mueller, donc cette idée de collusion
donc
entre
le Russiagate.
Entre son équipe de campagne la Russie, et que donc ça a également façonné très largement la manière dont il a abordé la question russe. À la fois, c'est encore une fois un enjeu de politique intérieure pour lui. Il va en faire une sorte de campagne anti-démocrate, anti-FBI. C'est quelque chose qui va peut-être plus encore compter qu'une compétition entre les deux puissances. Pour lui, c'est d'abord, peut-être c'est pour ça qu'il parle de rival presque personnel, c'est d'abord une épine dans le pied depuis le début, cette épée de Damoclès du Russiagate. Une dernière chose, c'est que pour Vladimir Poutine, il y a évidemment beaucoup d'opportunités aujourd'hui avec Donald Trump qui est imprévisible et qui peut donc décider. Alors la question par exemple serait de reconnaître la Crimée comme étant russe, et là Donald Trump à chaque fois a botté en touche en disant on verra, pourquoi pas, il faut qu'on en parle, etc. Évidemment ça marquerait une fracture assez fondamentale encore une fois dans les relations transatlantiques. Je pense que pour tous les pays, et c'est aussi le cas quand on a eu le sommet de Singapour pour la Corée du Nord, aucun pays ne peut aujourd'hui dire « Donald Trump a été bénéfique pour moi ». On ne sait pas. Demain, Donald Trump peut très bien tweeter quelque chose de profondément...
Israël quand même.
Même, je ne pense pas qu'aujourd'hui Israël puisse imaginer que Donald Trump va être constant. Non, Donald Trump n'est pas constant. On peut très bien imaginer un rendez-vous à Helsinki, le lendemain un tweet dans l'avion, totalement anti-Poutine. Donc je pense que très clairement, tous les pays prennent ça en compte. Et donc en même temps qu'on avance des billes pour avancer donc ses intérêts face à Donald Trump, on reste très prudent. Et en ça, Donald Trump, il y avait cette théorie de l'homme fou, le madman theory de Nixon, est un peu la théorie de Donald Trump. Personne ne peut prédire ce que je vais faire, et ça me permet aussi de garder tout le monde à pied sur une sorte de position de patience.
Je vais vous donner la parole, je sais sur quoi vous allez réagir, Laure, mais j'aimerais d'abord demander à Thomas Gomard quel résultat concret peut-on attendre de ce sommet d'Helsinki ? D'abord, peut-on en attendre, et notamment sur les deux sujets dont nous avons parlé, qui sont précisément la Syrie et la Crimée.
Bon. Sur la Syrie, ce qui semble être dans l'esprit de Trump, si on arrive à le déchiffrer, ça serait au fond une sorte de deal consistant à dire à Poutine, la Syrie t'appartient à partir du moment où tu m'aides à réduire l'influence iranienne. Voilà, c'est un peu comme ça que les choses sont présentées de manière très schématique à la veille de ce sommet. Et ce qui semble, pour le coup, assez illusoire, parce que, évidemment, côté iranien, il n'y a aucune envie de renoncer à ce qui a été acquis en termes d'influence régionale, que ce soit en Syrie et au Liban. Et côté russe, il y a aussi quelque chose qui est très frappant, c'est la capacité de la Russie à avoir des relations avec tous les pays de la région, y compris l'Iran. Donc il n'y a pas, à mon avis, d'attente à avoir une sorte de basculement de la Russie sur un front anti-iranien, la Russie rejoignant Israël, même si la Russie et Israël ont des liens extrêmement étroits, l'Arabie Saoudite et les États-Unis contre l'Iran. Donc là-dessus, je pense que c'est assez illusoire. En revanche, le fait de reconnaître le retour d'influence de la Russie au Moyen-Orient, ça c'est quelque chose extrêmement important pour la Russie, puisque je pense qu'un des objectifs maintenant, pas forcément explicité par Vladimir Poutine, mais qu'on peut voir en filigrane, Vladimir Poutine a rétabli la position de la Russie sur la scène internationale, ça c'est tout à fait visible. Et je pense qu'il veut maintenant aller plus loin, c'est-à-dire que dans le narratif c'est de dire, en fait, la Russie n'a pas forcément perdu la guerre froide, comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réécriture de ces années, consistant à dire, non, nous n'avons pas perdu la guerre froide. D'ailleurs, regardez l'état actuel de l'Occident, cette force qui prétendait avoir gagné la guerre froide, aujourd'hui, 2018, est en train de se disloquer sous nos yeux. D'ailleurs, par des forces qui lui sont internes, beaucoup plus que par des forces qui viendraient de l'extérieur. Et je pense qu'il est dans cette logique, maintenant jusqu'en 2024, de pousser son avantage et de tout faire en sorte, que ce retour de puissance soit consacré par une sorte de lecture différente de la fin de la guerre froide. Et de ce point de vue-là, Trump l'aide beaucoup, évidemment, puisque Trump considère que ce qui était parmi les choses qui semblaient les plus solidement établies, notamment l'Alliance Atlantique, est en train de vaciller sur ses bases. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, c'est évidemment différent, parce que là, Trump est dans une contradiction, c'est-à-dire que il a quand même une administration qui a durci ses sanctions à l'égard de la Russie de manière assez forte en avril 2018, et que je pense que c'est là aussi une tendance lourde, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion très forte entre son attitude, son verbe, etc., et puis, vous le disiez, le Congrès, mais aussi une administration qui aujourd'hui est de plus en plus hostile à la Russie, qui s'est d'ailleurs construite, qui a construit ses positions là-dessus, et je vois moi cette hostilité dans les contacts qu'on peut avoir se renforcer. Donc je suis plus perplexe sur la possibilité de trouver une situation en Ukraine, si ce n'est que les deux hommes peuvent avoir intérêt à minorer au fond l'impact des accords de Minsk et de dire les accords de Minsk ne fonctionnent pas. Les accords de Minsk, je rappelle, c'était quand même un montage russo-européen, hein, puisque Paris, Berlin, Minsk et Moscou, et ça ne permet pas ça a permis une stabilisation entre guillemets du conflit, de mettre fin à l'escalade à un moment, mais ça ne permet pas une solution politique jusqu'à présent. Et donc il y a peut-être là effectivement de part et d'autre un intérêt conjoint à affaiblir les Européens là-dessus.
Laure Mandeville, vous vouliez réagir, j'imagine, sur le caractère imprévisible de Trump, c'est ça ?
Oui, en fait, il y a plein d'éléments, en fait, évidemment, fort intéressants. Peut-être juste sur le caractère imprévisible de Trump, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a une très intéressante interview que je conseille de lire dans le Wall Street Journal, c'est un papier de Mike Pompeo, par Walter Russell Mead, qui est probablement un des meilleurs analystes, je pense, de l'action de Trump aujourd'hui aux États-Unis, et dans lequel Pompeo tente d'expliquer ce que veut faire Trump en politique étrangère. Et il dit, au fond, il y a deux directions. La première direction, c'est Trump sait que le monde a changé et que le monde est en train de changer. Et donc, il pense que les méthodes et l'architecture mondiale telle qu'elle existait jusque-là n'est plus capable de gérer les problèmes. Il est en total désaccord avec ce qui a été fait notamment par les néoconservateurs du Parti républicain. Il s'inscrit en faux. Il revient à une approche beaucoup plus réaliste des relations internationales. Et il dit, en gros, il faut que je renégocie le caractère des alliances. Elles ne peuvent plus fonctionner dans le cadre actuel parce qu'elles sont défavorables aux États-Unis et il faut donc les rééquilibrer, mais cela ne veut pas dire nécessairement les détruire. Mmh. Et l'autre élément, c'est nous sommes face à des puissances émergentes extrêmement redoutables, que sont la Chine, la Russie, révisionnistes, qui veulent changer les règles du jeu. Comment on fait pour assurer une forme de stabilité internationale face à ces nouveaux monstres ? Et je pense que Trump est en train, en fait, de prendre à sa manière brutale, avec ses sonars à la fois de tweets, de scandales vis-à-vis de ses alliés, ses tentatives d'embrassade, mais aussi de jeux très durs parfois aussi avec des gens comme Poutine, de tâter le terrain pour voir ce à quoi il a affaire. Donc c'est vrai qu'il y a une imprévisibilité, mais je pense que c'est aussi une technique qui lui permet, en fait, un peu comme le promoteur immobilier qu'il était, de sonder le sol sur lequel il va devoir agir. dire. Ça, c'est une première chose. L'autre élément que je voulais dire, c'est que Trump, c'est vrai, est très contraint sur la Russie. Pourquoi ? Parce que il a, comme cela a été déjà dit par Martin et par Thomas, une conjoncture intérieure qui finalement le paralyse. Il y a cette fameuse enquête, le fait que quand même, il y a des tas d'articles de journaux, à la fois dans la presse américaine et la presse russe, dans les derniers jours, sur le fait que il est peut-être la marionnette du Kremlin. Peut-être un homme, ont écrit plusieurs journaux, je voyais dans la presse russe, qui aurait été capté par les Russes depuis 1987, lors de son premier voyage, et que depuis, il serait finalement une espèce d'option que les Russes auraient gardée et qui aurait surgi tout d'un coup à la tête des États-Unis. Donc évidemment, je pense que personne ici ne pourrait trancher sur ces hypothèses qui sont peut-être des élucubrations, mais c'est vrai qu'il y a une affaire russe qui semble collée à Donald Trump et une obsession russe depuis des décennies. Et donc ça, c'est intéressant. Et en même temps, il y a effectivement ce congrès vent debout contre la Russie qui dit la Russie est aujourd'hui une puissance dangereuse. Nous devons canaliser. Et on a un Trump qui, malgré sa rhétorique favorable, a quand même des positions également parfois très fermes et très déstabilisantes pour Poutine. Quand, à la veille de sa rencontre avec Poutine, il fait sa sortie sur l'Allemagne en disant « l'Allemagne est maintenant aux ordres de la Russie parce qu'ils ont signé ce fameux accord sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui les met dans les mains de Moscou », ce n'est pas une action et un mouvement favorable aux Russes à la veille du sommet. Et d'ailleurs, cela a été remarqué par plusieurs interlocuteurs russes. Enfin, j'ai vu qu'il y avait eu des déclarations officielles qui disaient que c'était des déclarations tout à fait hostiles. Donc c'est vrai que sur le plan, par exemple, de l'énergie, Trump a joué un jeu très dur vis-à-vis des Russes en disant nous allons développer nos ressources pétrolières pour les mettre à disposition, le gaz naturel liquéfié pour faire une alternative pour l'Europe. Ce sont autant d'éléments qui évidemment affaiblissent la position russe vis-à-vis de l'Europe. En même temps, je suis complètement d'accord avec Thomas quand il explique que les Russes sont dans une position d'attente. Ils voient un Occident qui est en pleine crise, qui a des contradictions internes évidentes, et donc ils vont essayer évidemment d'en tirer le plus grand profit. Ce qui est intéressant chez Trump, c'est que lui, c'est pas nécessairement qu'il veut que l'Occident s'effondre, mais c'est qu'il pense aussi que l'Occident est en train de mourir de ses contradictions, et quand il fait ses déclarations certainement pas politiquement correctes sur l'immigration par exemple, il met le doigt là où ça fait mal en disant si vous ne réglez pas ce type de problème, l'Europe, vous êtes perdue.
Camille Grand, la différence avec le sommet entre Reagan et Gorbatchev, qui avait réchauffé les relations à la fin de la guerre froide, c'est qu'aujourd'hui, l'Alliance Atlantique est plus fragile. Alors comment vous pouvez nous lier ces deux sommets qui en fait ont une très très forte résonance, et pas seulement parce qu'ils sont très proches dans le temps?
Alors c'est effectivement d'abord une séquence diplomatique, et ça n'échappe à personne. C'est évident que si les deux événements avaient été déliés, ça aurait été plus simple à observer de ce point de vue-là. Là, on est dans quelque chose qui a une temporalité à peu près identique, et c'est assez clair. À côté de ça, ce qui est intéressant, ce qui va évidemment être regardé de près par les alliés des États-Unis en Europe, et en particulier ceux qui sont inquiets vis-à-vis de l'attitude russe, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que le président des États-Unis fait écho finalement aux documents qui ont été adoptés pendant le sommet de l'OTAN et qui ont été relevés pour leur fermeté à l'égard de la Russie sur un certain nombre de sujets. Les déclarations du sommet fait référence à l'affaire Skripal, donc à l'empoisonnement au Royaume-Uni, fait référence aux interventions russes dans potentiel en Macédoine après que la porte de l'OTAN ait été ouverte à la Macédoine. Donc on a quand même un message assez clair qui a été agréé à 29, donc par les États-Unis y compris. Et donc la tonalité même du sommet d'Helsinki va être évidemment regardée avec beaucoup d'attention, un petit peu comme on avait vu la différence entre le G7 et le sommet de Singapour avec Kim Jong-un. Pour voir comment ça se passe. Après, sur le fond, vu l'OTAN, le fait que le président des États-Unis rencontre Vladimir Poutine est normal. C'est pas le seul dirigeant de l'Alliance à rencontrer Poutine. Le président Macron est à Moscou.
Oui,
ce soir.
Plus normal que quand il rencontre Kim Jong-un.
Voilà. Et l'OTAN est sur une double démarche de dialogue d'un côté, de dissuasion et de défense de l'autre, et considère parfaitement légitime que les dirigeants de l'Alliance aient des engagements politiques avec Vladimir Poutine. Les points d'attention seront le discours sur la Crimée, évidemment, puisque c'est un point central et un point d'accord très fort jusqu'ici entre les alliés sur le fait de considérer l'annexion de la Crimée comme illégale. Et là, il y a eu deux, trois remarques qui sont un peu préoccupantes de ce point de vue-là. Et puis, plus généralement, finalement, la tonalité de cette rencontre et le fait de voir comment est-ce que le président des États-Unis gère cette relation avec Poutine, qui est effectivement, comme vous l'avez tous rappelé, extraordinairement complexe et avec des éléments dont on avec des paramètres vraiment multiples, à la fois parmi les grands dossiers internationaux dont ils doivent parler, mais aussi dans la relation personnelle que ces deux chefs d'État un peu hors normes sont susceptibles d'entretenir.
Thomas Gomard, finalement, est-ce que c'est l'Europe qui risque de faire les frais de ce rapprochement s'il a lieu? L'Europe qui craint que Donald Trump fasse des concessions à Vladimir Poutine et qui se sent, cette Europe, de plus en plus mal à l'aise dans ces relations uniquement basées sur le rapport de force. Hein. Laure Mandeville parlait tout à l'heure de l'univers obscien dans lequel fait évoluer l'Europe ces deux présidents. Qu'a-t-on à perdre?
Ben, je pense que ça, c'est le vrai sujet. C'est que le point faible aujourd'hui sur la scène internationale, c'est très clairement l'Europe de ce point de vue-là, parce qu'il y a une sorte d'absence idéologique de l'Europe, moi, qui me frappe beaucoup. C'est-à-dire que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, que ce soit dans des pays comme la Turquie, que ce soit aussi en Chine, il y a une capacité à produire aujourd'hui un discours sur la mondialisation, alors que les Européens, eux, brillent par leur silence d'une certaine manière, ou alors sont incapables de produire un discours renouvelé par rapport à l'évolution du cours des choses. De ce point de vue-là, il y a aussi une faiblesse structurelle, c'est-à-dire que pourrait imaginer, et la question qu'on pourrait se poser, ça serait quel serait le cours pris par l'Europe si, à la place d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, nous avions deux leaders populistes. Bon, et en fait, nous aurions une sorte d'alignement, c'est-à-dire qu'on a quand même une évolution en Europe de forces politiques, que ce soit en Italie, que ce soit en Pologne, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Autriche. Enfin, on voit cette vague vraiment se déferler d'une certaine manière, avec une sorte d'exception franco-allemande, partielle côté allemande d'ailleurs. Le résultat aussi des élections en France présidentielles peut se lire de manière peut-être moins nette que la victoire d'Emmanuel Macron. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une difficulté, à mon avis, aujourd'hui pour les Européens, en particulier le couple franco-allemand, de se situer et de produire un discours sur la mondialisation qui soit à la fois raisonnable et audible par rapport à des discours russes et américains dont on a l'impression qu'ils ont vraiment le vent en poupe. Donc, de ce point de vue-là, moi, je soulignerai le caractère très trop discret des Européens sur le plan idéologique. Et je pense que ces sommets, la mise en scène, etc., vous mettez en parallèle, si vous voulez, la mise en scène de ce sommet avec le dernier sommet, le dernier Conseil européen, c'est tout à fait frappant. C'est-à-dire que quand vous voyez la manière dont les médias américains, les médias russes traitent les conseils européens, il y a une sorte de mouvement de moquerie inversée qui se passe, c'est-à-dire que c'est présenté comme quelque chose sans forme, sans direction. Alors c'est très excessif évidemment dans le traitement, mais ça montre assez bien, je trouve, le désarroi européen.
Martin Coenzès, l'Europe coincée entre Vladimir Poutine et Donald Trump?
Oui, d'une certaine manière on peut imaginer différents scénarios. Ce qu'on peut imaginer, c'est que les pays européens, finalement, non pas se caricaturent, mais accentuent encore leurs différences. Alors même qu'il peut y avoir une crainte que les États-Unis, via Donald Trump, mais plus à plus long terme encore, se retirent ou en tout cas réduisent leur présence militaire en Europe, on tend à avoir finalement deux solutions. Soit on croit dans une solution européenne, et donc on investit dans l'Europe de la défense, dans un certain nombre d'initiatives pour coopérer au niveau européen et atteindre cette fameuse autonomie stratégique très française, soit au contraire on mise d'autant plus sur la relation avec les États-Unis comme étant la seule garantie possible pour sa sécurité. Et là, le risque, c'est d'une certaine manière de devenir purement bilatéral, c'est-à-dire de ne plus penser à la sécurité de l'Europe comme la sécurité d'un espace commun avec des mécanismes de sécurité, de solidarité via l'OTAN, mais simplement de payer les États-Unis pour leur présence sur place. Bon, c'est évidemment la proposition polonaise de 3 milliards d'euros pour qu'une base permanente soit mise. Ça serait évidemment une transformation de fond de l'ordre de la défense européenne. À l'inverse, le discours français, ce qu'on a pu espérer d'ailleurs qu'il influence davantage le discours allemand, est de dire prenons ces évolutions en compte lorsque nous parlons d'Europe et faisons davantage au niveau européen pour, non pas compenser, mais en tout cas accompagner l'évolution de la position américaine. Nous devons mieux travailler entre Européens, que ce soit au sein de l'Union européenne ou de manière ad hoc dans d'autres formats. Donc ces divisions-là, je le crains, pourraient s'accentuer avec la position Trump.
Gomard, vous vouliez ajouter quelque chose, mais très très rapidement, parce que je voudrais donner la parole finale à Normandeville qui voudrait aussi s'exprimer sur le sujet. Une minute.
Alors juste pour prolonger ce que vient de dire Martin, je pense qu'il y a un pays clé qui est la Pologne. Et s'il y a une politique européenne de Trump, elle fait de la Pologne sa priorité. Et ça s'observe à la fois sur le plan idéologique, sur le plan militaire et également, une manière de prolonger ce que Normandeville indiquait, sur le plan énergétique.
Normandeville.
Oui, en fait, je me demande si finalement ce désarroi européen qui est décrit par Martin et par Thomas n'est pas finalement le fait que les sociétés européennes sont en train de payer la facture d'un multilatéralisme qui finalement a été possible parce qu'il y avait un parapluie américain. Et au fond, le problème qui se pose à nous tous, c'est que pris entre effectivement une Amérique qui veut que l'Europe grandisse, et qui lui dit, en gros, on peut pas continuer à payer pour votre sécurité sans que vous ne vous y impliquiez, et une Russie qui, elle, rêverait depuis tant de décennies d'être finalement le pays qui va profiter de cette crise européenne, et que l'Europe revienne à des relations bilatérales, comme on l'a dit. Au milieu, vous avez ces Européens, ces sociétés européennes, qui ne sont pas encore prêtes à faire le sacrifice que signifie la protection et la défense. Et donc, au fond, il y a aussi une dichotomie en Europe, avec d'un côté une Europe de l'Est qui a encore le sens de l'histoire, qui ne l'a pas complètement oublié, parce qu'elle a été sous occupation soviétique et qui donc est prête à payer pour sa défense et qui veut garder le parapluie américain parce qu'elle ne fait pas confiance à l'autre partie de l'Europe. Et donc là, je pense qu'on est véritablement dans une crise qui va au-delà de la géopolitique qui est interne à nos sociétés.
Magnifique conclusion. C'est la fin de ce magazine de l'été. Un grand merci à nos invités Camille Grand, Martin Coenses, Thomas Gomard et Laure Mandeville. Cette émission d'Isabelle Lasserre a été préparée avec la collaboration d'Amélie Perrault et l'aide de Clara Garnier-Amouroux et de Christine Tomaso. Attachée de production, Marianne Chassor. La réalisation était signée Clémence Grosse et à la technique aujourd'hui, Bruno Gagnère. Vous pouvez réécouter l'émission ou la podcaster en vous rendant sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, donc avant la finale de foot. Les deux activités sont donc compatibles. Pour parler de l'actualité française, nous débattrons de deux sujets, les conséquences de la crise des migrants sur les partis politiques français, puis le style Jupiter d'Emmanuel Macron, ses avantages, ses inconvénients. Bon samedi.